Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Artémis Ière d'Halicarnasse, reine d'Asie Mineure, est considérée comme l'une des meilleures chefs de guerre de l'armée perse. Elle est la seule femme à avoir participé à la bataille de Salamine, qui a opposé les Perses aux Grecs en 480 avant Jésus-Christ. À travers l'histoire de cette femme exceptionnelle, je vais vous raconter l'un des plus glorieux épisodes de l'Antiquité athénienne qui a permis à la Grèce de devenir le berceau de la culture occidentale dans un récit en deux parties. Artémise, reine d'Halicarnasse et la Seconde Guerre Médique. Épisode 1. Une reine de bon conseil. Nous sommes dans la baie de Salamine, en mer Égée, en septembre 480 avant Jésus-Christ. Depuis la veille, le roi perse Xerxès Ier positionne ses navires de manière à barrer l'accès de la baie de Salamine. La flotte grecque se trouve là. Près de 300 navires de guerre qui couleront bientôt dans les fonds marins et symboliseront la soumission des Athéniens. Au petit matin, Xerxès lance l'attaque. Mais rien ne se passe comme prévu. Les bateaux perses, trop nombreux à s'engager dans la baie étroite, s'entrechoquent et certains se coulent même entre eux. Profitant de cette pagaille, le stratège grec Thémistocle ordonne à sa flotte d'attaquer. C'est un véritable carnage qui commence. Le navire de la reine Artémise est bientôt poursuivi par un bateau grec. La reine ordonne un repli, mais sa route est barrée par le navire du roi Damasitimos, un allié perse. Pour échapper au bateau qui cherche à la couler aux Grecs qui ont mis sa tête à prix, car elle est une femme chef de guerre, elle n'a pas le choix. Elle doit se replier. Mais si elle continue à filer tout droit, elle va éperonner l'embarcation de Damasitimos. Couler un allié ou être faite prisonnière, Artémise doit prendre une décision. Et vite. Artémise est probablement née à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Son père est le roi d'Halicarnasse Lygdamis et sa mère est une illustre dame crétoise. La passion pour la navigation coule donc dans les veines de cette princesse au caractère bien trempé. Pour mieux comprendre l'importance de la mer pour les Grecs, laissez-moi vous présenter la carte de la mer Égée à l'aube du 5e siècle, disons vers 500 avant Jésus-Christ. La mer Égée, c'est cette portion de mer qui sépare la côte de la Grèce et la côte ouest de l'actuelle Turquie. Dans l'Antiquité, on parle de l'Anatolie qui se situe en Asie mineure. La limite méridionale de la mer Égée se trouve au niveau des Cyclades, ces îles grecques paradisiaques où tout est blanc et bleu. À cette époque-là, la Grèce n'est pas unifiée. Il y a une multitude de cités-États avec des systèmes politiques différents allant de la démocratie à la monarchie. On parle alors plus souvent de dynaste ou de tyran pour qualifier un roi. Ce mot n'a pas encore une connotation négative. Ce sont des thalassocraties, des royaumes ouverts sur la mer. Sur la côte d'Asie mineure, il y a de nombreuses cités-États fondées par des Grecs, parfois dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Halicarnasse se trouve sur cette côte, à la confluence des cultures grecques et phéniciennes. La cité se trouve donc dans une région d'Anatolie qu'on appelle la Carie. Elle est proche de l'actuelle ville de Bodrum en Turquie. Lorsqu'Artémise vient au monde, son royaume, jadis indépendant, passe sous domination perse et son père devient un vassal du roi Darius. Le roi Darius est un perse de la dynastie Achéménide. Il met en œuvre une politique d'expansion agressive. Tous les rois des cités grecques d'Asie mineure doivent devenir ses suzerains, sinon leur cité sera détruite. Lygdamis reconnaît donc qu'il est inféodé à Darius. Il peut continuer à gérer librement son royaume tant qu'il paye un tribut annuel à son suzerain et qu'il fournit des armes et des guerriers en cas de guerre. On ne sait pas vraiment quand Lygdamis meurt, mais après sa mort, Artémise hérite de son pouvoir. À cette époque, dans la partie orientale de la Méditerranée, il arrive que des femmes règnent quand il n'y a plus d'hommes dans l'ordre de succession. C'est rare, mais ce n'est pas une anomalie. Cependant, la chronologie du règne d'Artémise est un peu floue. On ne sait pas si elle succède tout de suite à son père ou si elle prend le pouvoir après la mort de son mari, qui, d'ailleurs, serait probablement son frère. Quoi qu'il en soit, on sait qu'elle est mère d'un fils et son pouvoir est incontestable. De son éducation, on ne sait rien de concret. On peut imaginer qu'elle a été préparée à exercer le pouvoir et qu'elle a une bonne connaissance de la navigation. C'est difficile d'en dire davantage sans sombrer dans les tentations romanesques. Depuis 486 avant Jésus-Christ, son suzerain est le roi Xerxès Ier, le fils de Darius. Le nouveau roi des rois a bien l'intention de continuer la politique expansionniste de son père parce que le dieu perse Ahuramazda exige cela des rois. Et ce dont rêve Xerxès, c'est de faire la conquête de la Grèce continentale. Il deviendrait l'homme le plus puissant du monde connu. Son empire va déjà des portes de l'Inde à l'Égypte. Quelle victoire ce serait de prendre la Grèce! Et puis, le contentieux avec les Grecs ne date pas d'hier. Son père a été défait par les Grecs à la bataille de Marathon en 492. Xerxès aspire à la revanche et pour lui, c'est surtout une question d'orgueil. Dès son arrivée au pouvoir, Xerxès commence à lever une armée gigantesque pour partir à l'assaut de ses ennemis. Tous ses vassaux, dont la reine Artémise, fourniront des hommes et des armes. La souveraine d'Halicarnasse met d'ailleurs 5 navires de guerre à sa disposition et rejoint son conseil militaire. La gigantesque armée de Xerxès traversera l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles, qui sépare l'Asie de l'Europe et fera la conquête des cités grecques côtières une à une jusqu'à la prise d'Athènes dans la région de l'Attique, puis de Sparte dans le Péloponnèse. Laissons Xerxès imaginer la conquête de la Grèce et allons justement à Athènes. À ce moment-là, l'ambiance est très différente de celle de l'Empire perse. Athènes, qui est une démocratie, connaît une période de prospérité sans pareil grâce à l'exploitation des nouvelles mines d'argent du Laurione. Les bénéfices sont reversés aux citoyens et tout le monde est heureux. Malgré tout, un homme est inquiet. Cet homme, c'est Thémistocle. Thémistocle est né en 520 avant Jésus-Christ. Il est peut-être un peu plus vieux qu'Artémise, et encore. Il est issu du peuple, il vient d'une famille de commerçants. Il parvient néanmoins à gravir les échelons sociaux en se faisant élire stratège d'Athènes, c'est-à-dire général en charge des affaires militaires. Il fait partie des vainqueurs de la bataille de Marathon. Il a l'intuition que la paix contre les Perses ne va pas durer longtemps. Pour lui, il vaut mieux craindre les Achéménides que les pirates de l'île d'Égine qui attaquent et pillent les bateaux de commerce athéniens. Mais comme il sait que le peuple n'a pas envie d'envisager une grande guerre, il propose simplement aux citoyens d'utiliser les bénéfices des mines du Laurione pour le bien public en construisant une nouvelle flotte de guerre, la plus puissante de toute la Grèce continentale. Il est vrai que jusque-là, Athènes, qui a de vastes terres agricoles, n'est pas la cité reine de la mer Égée. Et il faut au moins se défendre des pirates. Le peuple accepte la proposition de Thémistocle. De nombreux citoyens sont alors employés sur les chantiers navals et la croissance économique de la cité continue. Thémistocle a fait mettre au point pour ses navires de nouveaux éperons. C'est ce qu'on appelle aussi des rostres. Il s'agit de sortes de becs renforcés par des plaques de métal qui permettent de percer un trou dans la coque du bateau attaqué pour le couler. Recouvrir les rostres de métal pour plus de 200 bateaux, ça coûte cher. Mais Athènes a les moyens, alors pourquoi s'en passer? Et l'histoire va bientôt prouver que Thémistocle a raison de préparer la guerre. Le stratège sait qu'il ne peut pas organiser une riposte seule face à une éventuelle attaque perse. En 481 avant Jésus-Christ, il réunit tous les chefs des cités-états grecs sur l'isthme de Corinthe pour coordonner une défense commune. Et ça passe par un préalable indispensable. Les cités-états grecs doivent arrêter de se battre entre elles pour faire front commun. Même si le péril achéménide est encore imprécis, les Grecs acceptent de s'unir. Et ils ont raison. Voilà, maintenant que nous savons ce qu'il se passe à Athènes, retournons voir Xerxès qui a avancé dans son projet de conquête. En juin 480 avant Jésus-Christ, l'armée de Xerxès est prête à prendre la Grèce. Ses ingénieurs ont bâti un pont pour traverser l'Hellespont en mettant 674 trières côte à côte. Ce sont ces bateaux qui servent de pile à une passerelle longue de 1,5 km. Combien de fantassins et de cavaliers traversent ce pont? Ça, je vous l'accorde, c'est difficile à dire. Ni les chroniqueurs anciens, ni les historiens modernes ne sont d'accord. Les évaluations des contingents de Xerxès vont de 5 millions d'hommes à 200 000 hommes. Il paraît raisonnable de rechercher une médiane crédible. On va se dire qu'il y a certainement plus d'un million d'hommes. Pendant que les troupes perses traversent l'Hellespont, les soldats de Xerxès trouvent des espions grecs. Le souverain leur laisse la vie sauve, leur montre même la puissance de son armée et les invite à en avertir les Grecs. Qu'ils se préparent à entrer en guerre, s'ils l'osent. Et au nord de la mer Égée, ils n'osent pas. La colonne de fantassins avance comme un bulldozer le long des côtes grecques et toutes les cités tombent une à une presque sans combattre. Si elles tentent quoi que ce soit, elles seront rasées. Mieux vaut faire dos rond et prêter allégeance au roi des rois. À Athènes, Thémistocle est horrifié par le rapport des espions. Comment les Grecs pourront-ils résister à la puissance de l'armée perse? Pour le découvrir, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée.